Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'armes, l'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Noble.
Journal vivant. Revitalité.
Construction. Obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission de théâtre quotidienne, hebdomadaire, quotidienne, le théâtre de la gamelle. Je suis aujourd'hui avec Charlotte, Eva et Delphine, et nous allons vous donner lecture de l'épisode 6 de la saga radiophonique « Elles y croient qu'elles peuvent voler ». L'épisode 6 s'appelle « Des perturbations sont à prévoir » et c'est Eva Natalia Grenier qui en est l'autrice, et Eva est avec nous. Donc Eva, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette saga, ton travail, et puis nous rappeler peut-être un petit peu la généalogie de certains personnages pour que les auditeurs comprennent bien les enjeux?
Bah, tout à fait, merci, bonjour. Donc en fait, c'est l'épisode 6 de la saga « Elles y croient qu'elles peuvent voler » et c'est l'avant-dernier épisode de la saga. Donc dans chaque épisode, je fais un focus sur un sujet à travers la transmission intergénérationnelle. Et le thème de cet épisode, ça va être l'addiction. Donc qu'est-ce qui nous est propre, qu'est-ce qui vient des autres, de nos ancêtres ou de la société, qu'est-ce qu'on nous fait porter ou qu'est-ce qu'on porte nous-mêmes. Et c'est un témoignage vraiment en temps direct sur ce que vit notre société, donc ça parle vraiment là de problèmes, ça ouvre des sujets sociétaux actuels que vous allez découvrir pendant la lecture. Pour vous résumer un petit peu où en est la saga, c'est l'histoire d'Elisa et Meghan, qui sont deux cousines trentenaires qui se retrouvent parce que Meghan a un secret à avouer. Le fils qu'elle a secrètement abandonné il y a 16 ans est venu la trouver. Il s'appelle Jean et il est en recherche d'identité. Meghan ne va pas prendre en charge ce fils, c'est Elisa qui va l'aider. En l'accompagnant, elle se confronte à son passé, à elle-même. Le géniteur de Jean, c'est Karim, qui est l'amour d'adolescence de Meghan, et il est parti vivre en Alaska. Pour le retrouver, Elisa a dû se remettre en contact avec son amour d'adolescence à elle, qui s'appelle Sami, et qui est le cousin de Karim. Ils remettent le couvert, mais Sami prend peur et il ne voudra pas avoir une nouvelle relation amoureuse avec Elisa. Et ça, c'est sans compter sur un petit être qui est en train de se créer dans le ventre d'Elisa. Elle est enceinte de Sami. Donc tout ça, ça vous paraît peut-être un peu lourd, un peu compliqué, mais vous allez tout comprendre pendant la lecture, normalement. Et voilà.
Super, merci beaucoup pour ce petit rappel. Donc laissons-nous porter par ces personnages, par cette fiction. Je vous souhaite une bonne écoute et à tout à l'heure.
Elles y croient qu'elles peuvent voler. Épisode 6, des perturbations sont à prévoir.
Il y avait un reportage sur les boys bands de la fin des années 90 à la télévision. Ces groupes de garçons qui eurent une carrière épique auprès de la jeune gente féminine entre 1995 et 1999. Tous, à la musculature et aux chorégraphies attrayantes, aux chants romantiques et aux moues séductrices. Elisa avait allumé l'écran afin d'avoir un fond sonore en cuisinant. Alors qu'elle se tournait afin d'attraper ses poivrons, sa main se recroquevilla sous son menton et sa bouche s'entrouvit. Il y avait un clip des Boyzone dans l'émission. C'était son groupe préféré à l'époque. Elle en était folle. Avec Meghan, elle connaissait les paroles des chansons par cœur. Elles attendaient chaque sortie de clip, chaque sortie d'album. Internet n'était pas assez répandu. Elle devait scruter les émissions musicales, leur annuaire appuyé sur l'enregistreur du magnétoscope, au cas où un clip ou une interview passerait à la télévision. Leur argent de poche allait dans tous les magazines qui sortaient où une quelconque photo des Boys Zone pouvait apparaître. Elle découpait les images, déchirait les pages et collectionnait le tout dans un classeur. La jeune adolescente qu'était Elisa vivait le summum de l'hystérie à chaque nouvelle rapportée sur ses garçons, façonnée pour ses hormones et son pouvoir d'achat. Elle était tombée la tête en plein dedans et avait même réussi à convaincre ses parents que les Boys Zone n'étaient pas comme les autres boys bands. Elle comptait sur la mélomanie de son père pour approuver chaque chanson que son groupe préféré sortait le samedi matin sur M6. Son père était fan de rock et de folk. Il faisait des blind tests à ses enfants depuis toujours. Et elle savait différencier la guitare de Jimmy Page à celle de Bruce Springsteen, la voix de Bob Dylan avec celle de Crosby et Nash, avec et sans Young. Chez eux, Peter Gabriel était vénéré comme le dieu créateur de la musique rock expérimentale. Alors, les Boys Zone, elle les avait choisis avec son oreille de spécialiste. Elle était sûre de son coup. Les Boys Zone, c'était un groupe d'hommes irlandais. Eux, c'étaient de vrais chanteurs, parce qu'il y a une tradition de chant en Irlande et qu'ils ne faisaient que la respecter. Et puis, ils n'étaient pas si musclés que ça, eux. Tous les arguments étaient bons et ses parents ne pouvaient de toute façon pas faire face au fanatisme de leur fille. Ils n'osaient pas la contredire. Elle qui, pour la première fois, exprimait son goût. À elle. Il la soutenait. Il n'avait pas le choix. Et son père acquiesçait sagement de la tête quand Elisa l'asseyait sur le canapé afin de regarder les nouveaux clips de ses héros. De son côté, il était plutôt fier qu'elle se donne autant de moyens afin d'avoir des informations sur un sujet qui touchait tout de même à la musique. Ils étaient 5 dans le groupe. Il y avait Ronan, Stephen, Keith, Shane et Michael. Elle était amoureuse de Stephen. Enfin, elle avait été amoureuse de Stephen. Megan était amoureuse de Ronan. Il s'est avéré que Stephen eut enfin avoué son homosexualité dans les années 2000, lorsque le phénomène des boys bands et que la puberté d'Elisa eurent pris l'eau. Ils avaient alors pu, tous les deux, prendre leur envol vers leur vraie nature. Elisa retrouva le rock, le sien, celui des années 2000, Muse, Radiohead, Bright Eyes, Red Hot Chili Peppers, Deftones, Korn. Et Stephen put vivre à visage découvert avec son compagnon. Le poing d'Elisa ne quittait pas sa mâchoire. Le clip Love Me For A Reason, dont les paroles étaient Love Me For A Reason, Let The Reason Be Love, devant ses yeux, elle eut une petite peur. Elle n'arrivait pas à se souvenir avoir vu ce clip. Aucune parole ne lui revenait, aucune image, alors qu'elle connaissait par cœur chaque séquence de chaque clip du groupe de ses 11 ans à ses 14 ans. Elle reconnaissait les petits yeux étincelants de Stephen Gatelli et s'attendrissait d'avoir été si crédule à l'époque. Mais ni les soyeux pulls blancs, ni les ouvertures de bras, savamment maîtrisées, mimant une ouverture de leur cœur vers la caméra, ni les bougies ne lui revenaient en mémoire. Elle quitta de suite sa cuisine afin d'allumer son ordinateur. Elle regarda en boucle tous les clips que lui proposait YouTube, et c'était comme si son cerveau avait subi un lavage. Rien. Elle ne se rappelait rien. Il ne tenait même plus de 30 secondes sur chaque saison. Et ne tenait même plus de 30 secondes sur chaque chanson. Cela ne lui faisait même pas un petit pincement au cœur. On lui avait vendu du vide. Ce qu'elle croyait avoir été une des aventures les plus intenses de sa vie se résumait aujourd'hui à un souvenir intense des émotions qu'elle avait parcourues, mais à un vide total de ce qui les avait provoquées. Ces émotions avaient été manipulées au moment le plus délicat d'un être humain, celui du passage vers la conscience et ses propres choix. Et elle n'en revenait pas. Elle voulait se souvenir. des paroles, des gestes, mais rien. Elle s'adossa alors à sa chaise, et le long souffle qu'elle poussa fut accompagné d'un coup de pied au sein de son ventre. Elle ne s'y était pas encore habituée. Elle essayait de ne pas interpréter ses petits mouvements. Mais là, elle avait envie que ce soit un signe du bébé qui grandissait en elle. Un encouragement. Un rappel.
Je parle déjà pour toi. Je sais même pas pourquoi tu t'es manifestée. Et moi, je me raconte que c'est pour me rassurer. Alors que c'est peut-être que tu avais juste mal au dos. Je sais même pas si tu as déjà un dos. C'est pour toi-même que tu fais les choses, pas pour moi. T'es pas là pour m'aider, t'es là pour exister. Moi, t'inquiète, j'ai l'habitude de gérer toute seule. Ça fait longtemps que mon intimité, mon métier, mes amis, mes choix, je les gère en accord avec moi-même, que personne m'accompagne au quotidien là-dessus. Les femmes qui se sont battues pour qu'une femme puisse se construire intimement et socialement sans l'aide d'un homme, elles seraient fières de moi. J'ai jamais dû faire des choix, me sacrifier pour un homme. Je pensais pas avoir une vie de féministe, presque malgré moi. Tu peux être fière de ta maman. Je suis entièrement moi. J'aurais aimé avoir de l'aide, je ne te le cache pas, mais j'ai fait ça. Et franchement, je m'en sors bien. T'étais pas prévu. Je vais essayer de me retenir. Pas de projection, mais c'est tellement agréable que tu sois là. Tu sais, quand je vais dans un magasin, je sens qu'on est deux. Mon pied avance sur le sol et je ne suis pas que moi-même. Je ne suis pas toute seule à regarder les vêtements. Je les choisis pour qu'on me trouve jolie, mais aussi pour toi, pour que les gens se disent que ce bébé qui est dans ce ventre, il a de la chance. Il a une jolie maman. Je sais que les apparences, c'est pas ce qui compte le plus, mais c'est quelque chose que je peux pas contrôler. Là, tout ce qui se passe en moi depuis que tu es là, je contrôle rien. Les médecins, tu sais, ils sont pas tendres avec moi. Parce que avant que tu sois là, j'avoue que j'avais un système de gestion qui m'était propre, qui n'a pas été bon pour ma santé. On me l'a toujours dit. Mes parents, ils ont tout fait contre. Dans la famille, on est gourmand, on a des formes facilement. Et les femmes font attention. Pas moi. Moi, je crois que j'ai pris le poids de leur peur à elles. J'ai choisi que moi, je ferais comme je voudrais. Que moi, je mangerais du pain avec mon fromage. Elles avaient leur traumatisme, j'ai eu les miens, et j'ai tout mélangé. Et ça s'est transformé en manière de fonctionner. Et je voulais pas écouter que c'était dangereux. Je voulais pas les croire quand ils me disaient de ne pas me resservir. Quand ils achetaient des sneakers à mon frère en lui disant de les laisser dans sa chambre pour pas que j'en prenne. Je me disais que c'était contre moi. Contre ce que je voulais, moi. Et je développais un art de la dissimulation. Plus aigu que les plus grands prestidigitateurs. Je mangeais en cachette tout ce qui était possible, petite quantité par petite quantité, dans chaque paquet disponible pour que ça se remarque pas. Ne jamais jeter les emballages, les garder et les mettre dans une poubelle loin de la maison. Quand les placards étaient vides, je pensais au congélateur. Je cuisais pas les aliments et attendais qu'ils fondent dans ma bouche pour qu'il n'y ait pas d'odeur de nourriture lorsqu'ils rentreraient. Je pensais à tout. Ils s'en sont jamais rendus compte. Quand je leur ai avoué des années plus tard, ils se doutaient de rien. Il y avait une petite boulangerie où nous allions certains dimanches après s'être promenés. Ils avaient des bichons au citron. C'était ma viennoiserie préférée. Ils étaient énormes. Mes parents n'en achetaient que deux qu'on se partageait à quatre. Et moi je ne comprenais pas. Pourquoi on n'avait pas le droit d'en manger un en entier chacun? Mes parents savaient que le citron, c'est ce que je préférais. Je me disais qu'il le faisait exprès, qu'il demandait à mon frère de faire un effort pour moi, de ne pas en réclamer un entier pour pas que je mange trop. Mais jamais venu à l'esprit que la viennoiserie était anormalement grande et chère. Je pensais que c'était juste parce que j'étais grosse et que j'y avais pas le droit. Pas le droit en entier. Un jour, je suis pas sortie de la voiture pour aller à la boulangerie. J'y allais toujours. Et pendant que mon père et mon frère traversaient la route, je me suis mise à pleurer. Ma mère comprenait pas. Et je lui ai avoué que pour moi, le plus grand rêve que j'avais, c'était de pouvoir manger un bichon au citron en entier, toute seule, pour moi. Que je m'en foutais d'être grosse, que j'étais gourmande et que j'étais heureuse. Que c'était normal, que j'aime manger le sucré, le gras, parce que je suis une humaine, que nos cerveaux d'Homo sapiens sont faits comme ça. Que les nouvelles sociétés, elles n'ont pas encore réussi à rééduquer nos cerveaux, que notre espèce, elle a passé des millénaires à chasser et à cueillir. Et qu'avant, les sources de sucre et de gras, elles étaient rares. Alors, quand ils avaient la chance d'en trouver, nos ancêtres, ils se jetaient dessus, ils les mangeaient de suite, ils ne les collectaient pas. Parce que sinon, c'est leurs prédateurs qui en profiteraient. Et ce réflexe, il était en nous, encore. Que c'était pas ma faute, qu'il fallait qu'ils s'arrêtent de me priver. Elle me fit sortir de la voiture, me prit par la main. Mon père et mon frère sortaient de la boulangerie avec un gros sachet blanc contenant deux bichons au citron. Ils les remuaient fièrement. Ma mère me fit faire la queue. On était toutes les deux en larmes. Elle demanda à la boulangère deux bichons au citron. Et on mangea un bichon chacun sur les bords de Saône. J'avais 11 ans et les cheveux au vent. Mon frère courait partout. Il avait à peine mangé sa viennoiserie. Je souriais. Et je ne voyais pas les regards inquiets de mes parents, les regards interloqués des passants. Ce goûter était trop grand. On n'en mangeait pas un par personne. Ce n'était pas fait pour. Mais à force d'être frustrée, je ne me rendais plus compte de ce qui était trop et pas assez. Mes valeurs, elles étaient bouleversées et je ne le savais pas. J'étais la petite fille la plus heureuse du monde. Je croyais être comme les autres enfants, avoir les mêmes droits. C'est un savant mélange d'interdits, d'insatisfaction et de protection, de nature têtue qui construit nos mesures. Et je n'ai jamais aimé le mot raisonnable. C'était leur vision, à eux. C'est la société qui disait que c'était pas beau d'être comme moi. Parce que ça fait peur quand tu portes tes faiblesses de tout ton corps. Aujourd'hui, c'est difficile de faire sans. Mais la ténacité que j'ai eue à penser que je passerais à travers les mailles du filet, elle peut se transformer. Et aujourd'hui, je sais que c'est dangereux. Je le sens, que c'était trop. Ça fait des années que mes veines ne marchent pas comme il faut, que mon estomac se venge sans savoir comment se réconcilier avec lui. Le danger, il est vrai, même pour moi. Alors, j'ai encaissé. C'était le prix à payer. Mais c'est pas grave, c'est humain. Il faut juste le digérer. C'est le bon mot. Et avancer. Parce que tout change trop vite. Et là, tu es là. Et je peux pas continuer à ne penser que pour moi. Un soir, je mangeais chez un couple d'amis. Ils étaient jeunes mariés. L'après-midi même, la femme avait appris la mort d'un collègue. Elle était mal pendant tout le dîner. Elle ne pouvait pas manger. Son mari étalait une tartine de boursin. Elle lui a pris la main et a jeté la tartine au sol. Elle a crié qu'il avait du cholestérol et qu'il n'avait pas le droit de manger du boursin. Que s'il ne voulait pas faire attention pour sa vie à lui, qu'il fasse attention pour la vie de sa femme. Qu'il ne pouvait pas lui faire ça, qu'il ne pouvait pas la laisser toute seule, qu'elle ne lui pardonnerait pas. Et moi, je mets ma tartine dans la bouche. Et personne ne me l'enlevait des mains. Personne n'avait poussé le fromage un peu trop loin de portée pour moi, comme le faisaient mes parents. Depuis que je suis adulte, je peux manger tout le boursin que je veux sans que quelqu'un ne s'en inquiète. J'avais créé cette situation. Et je ne voulais pas décevoir quelqu'un, que quelqu'un s'inquiète pour moi, soit contre ma nature et me force par amour pour moi, pour lui, à faire exploser la bulle que je m'étais conçue, que je croyais être transparente, qu'on pouvait voir à travers, et juste la faire disparaître en une caresse. Et personne ne se rend compte des bulles qu'on se construit tout seul. Et il faut se laisser approcher pour qu'elles brillent un peu. Mais toi, tu es en moi. Alors pas de bulles entre nous. Les docteurs qui ne savent pas la volonté. Je ne sais pas si tu la sens. Ils ne savent pas ce qu'ils réveillent en moi quand ils disent que c'est dangereux pour nous deux. Tout ce gras, le sang qui ne circule pas. Et ils ne font pas attention. Ils ne passent pas leurs mots. Et c'est comme une double peine. Je me dis qu'ils ont de la chance de tomber sur moi. Que moi, je sais les choix que j'ai faits. Que je ne vais pas leur sauter à la gorge. Leur dire que leur montre trop grosse sur leur poignet, c'est qu'un défaut sociétal, une mauvaise démonstration de leur pouvoir, leur savoir sur nos corps. Que leurs alliances, normalement, elles devraient éviter les regards langoureux qu'ils lancent à toutes les infirmières qui passent dans le couloir. Que de ne pas savoir parler à un patient, c'est une erreur professionnelle. Que de culpabiliser quelqu'un de gros, aujourd'hui, ça a un nom. Que si tu es docteur, tu sais que ça ne marche pas facilement et qu'on fait tous comme on peut. Je ferai des erreurs. Je le sais. Je ferai au mieux. Je continuerai à faire de mauvais choix et j'oublierai des choses qui étaient primordiales. On ne sait pas encore ce que ça sera. Je ne sais pas encore si on sera que tous les deux. Ça ne se fait pas toute seule, un enfant. Je t'ai à un âge où je me connais. Je ne te ferai pas porter mes choix. J'ai le recul. Mais je sais que toi, j'ai pas le droit de te faire toute seule. Ton papa, il sait pas encore que tu es là. J'y suis pas arrivée. Pas encore. J'ai besoin de plus de temps. Il faut lui laisser une chance. C'est une des choses que tu risques de me reprocher. Lui et moi, on n'a pas la même vision. C'est comme un escargot qui bave plus doucement que le rythme de son cœur. C'est tout flasque, c'est mou et pas très ragoûtant. Il y a des antennes qui forment des yeux et la mascarade des entités vogue sur la nonchalance d'une décision à prendre. Lente et molle, sculpturale. Et qui s'efface au fur et à mesure que le corps avance. Une grosse bosse dure sur le dos qui forme un refuge millénaire. Ça aime la pluie et ça sort quand tous les autres se cachent. Et ça peut se faire écraser en un mouvement de pied, de roues, de branches d'arbres qui tombent. C'est comme une chanson d'Andrew Bird qui lancine dans ta tête, qui te berce et t'invite à prendre du temps. C'est doux et baveux, cette décision. S'il avait gardé contact, ça ne serait pas à moi de l'apprendre, de lui dire. S'il avait pris des nouvelles, il le saurait. Et ça serait plus simple. Mais t'inquiète, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude de prendre les choses en main. Quand tu es seul, tu as l'habitude de ne pas être rancunier. Les autres, ils n'ont pas le temps. Ils ne le prennent pas. Tu peux en vouloir qu'à toi-même. Ne pas attendre que les autres fassent pour toi. T'inquiète pas, je ne vais pas me recroqueviller dans ma bosse. Je vais nous faire avancer. Et si ça bave un peu sur le chemin, j'espère que tu m'en voudras pas. J'ai besoin d'y aller tout doucement, au son du violon qu'on utilise comme une guitare. Ah, tu sais, ton cousin Jean, il va arriver en Alaska. Ça y est, il est dans l'avion. Et lui aussi recherche comment dire à son papa qu'il est là.
Riding on the Paris success of this heavy-headed metaphor. And I feel like you've been here before, 'cause you've been here before, and you've been here before. Then a word washed ashore, then a word washed ashore, then a word washed ashore. All those Don Quixotes and the B-17s. And I swear this time, yeah, this time, it blows back to the 70s. And this time, the faint ride of the Valkyries, no semblance of grace, and the acting on vagaries with the violent proclivities, and the playing ride. Playing right, 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 right of the Valkyries. So vain, so vain, so vain, all along the day. Instead of thinking about my plan of attack, I think I've gone aside. The whole board of trustees, all those Don Quixotes and the B-17s, and I swear this time, it blows back to the 70s. And this time, I'm playing Ride of the Valkyries, with no semblance of gracery. Now they're acting on vagaries. With the violent proclivities and the playing right.
Karim venait chercher Jean à l'aéroport. Jean avait passé un bon voyage. Il était un peu flagada. Mais il avait attendu ses valises avec un énorme sourire. Et la petite boule qui commençait à se former dans son ventre ne le préoccupait pas encore. Lorsqu'il sortit des deux portes qui devaient le mener à son géniteur, il prit un selfie. Un qui marquait le « avant ». Il en prendra un deuxième à son retour, pour voir si son visage aurait changé avec la rencontre de celui dont les spermatozoïdes étaient à la base de son existence. Est-ce que cela marque un homme? Est-ce que ça se voit sur son visage? Quand sa silhouette passa l'entrebâillement des vitres, son corps fut frôlé de manteaux à pinction et de valises à la trajectoire vacillante. Il ne voulut pas tout de suite lever les yeux vers les gens. Ne pas voir, derrière la ligne de démarcation, l'élastique, blanc et rouge. Voir ceux qui venaient chercher les voyageurs. La boule dans son ventre devient de plus en plus oppressante. Mais il ne voulait pas se courber afin de limiter la douleur. Il voulait être droit, être fort. Mais lorsqu'il leva les yeux à la recherche fébrile de Karim, il ne le trouva pas. Il n'était pas là. Il reparcourut les visages, de gauche à droite, de droite à gauche, et personne ne semblait lui adresser de sourire. Personne n'était là, pour lui. Il restait planté au milieu du passage, bousculé par le balai disgracieux des corps fatigués de ses compatriotes de voyage. Quelqu'un lui frôla l'épaule. C'était l'hôtesse de l'air, qui était chargée de lui. Il était mineur. Il devait attendre avec elle. Il avait oublié. Elle le guida par le coude et le rassura en disant qu'à cette heure-ci, les embouteillages étaient proéminents, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Et pendant la demi-heure qui s'ensuivit, un millier de passagers durent traverser le hall. Jean en profita pour se raconter des histoires sur toutes ses vies en transit dans un même instant, un concentré de va-et-vient. Il aurait pu appartenir à chacune des familles qu'il voyait passer. Il se racontait souvent cela enfant. Quand il était dans un espace public, il imaginait qu'un de ses géniteurs était là. Ça pouvait être l'adulte qui traînait le tricycle de la petite blonde. Il aurait une petite sœur. Ou peut-être que ce serait la rousse qui hurle au téléphone. Et quand il vit Karim arriver, tout transpirant, les cheveux plaqués de sueur, sa belle chemise ouverte sous les 5 premiers boutons et son anorak en boule sous son bras, il ne voulut plus qu'aucun autre être vivant ne puisse être celui qu'il avait conçu. Karim avait une prestance et une beauté qui jaillissaient malgré son attitude débordée. Leurs yeux se croisèrent. Karim souffla un grand coup, fit un petit sourire sur le côté et courut vers son garçon. C'est comme ça qu'il l'appela. Mon garçon. La boule qui était dans le ventre de Jean explosa quand Karim le prit dans ses bras et qu'il reconnut l'odeur que ses propres aisselles sécrétaient. Après une quelconque course de 5 minutes, Karim sortit de suite la pièce d'identité qu'il gardait précieusement dans la poche de son pantalon en chuchotant « C'est moi son père, je suis son papa ». Il s'excusa de son retard. La jeune femme qui accompagnait Jean ne traîna pas, elle avait affaire. Ils se retrouvèrent seuls. Karim prit Jean par l'épaule d'une main et la valise qui traînait à ses pieds de l'autre. Il lui proposa de se poser dans un café qui était au coin. Quand ils furent assis face l'un à l'autre, leur café commandé et bientôt servi, Karim reprit la parole. Et Jean ne pouvait faire autrement que de le regarder avec les yeux grandement écarquillés.
C'est une situation qui demande du café. Une odeur qui détend. Du chaud entre les mains. Tu sais que je suis même étonné que Megan nous ait fait ce coup-là. Je lui ai pas parlé depuis que je sais. Elle t'a fait sans me tenir au courant. Elle est partie loin pour te couver en scred. Et quand elle est revenue sans toi... Elle en a parlé à personne. Tu te rends compte? Oui, tu te rends compte. Pardon. C'est le propre de ta vie. C'est comme ça que t'as commencé. Je suis tellement désolé. J'aurais été là. Ils te l'ont dit, hein? Si j'avais su, je l'aurais pas laissé faire. Je t'aurais accueilli tout de suite. Là où je suis, c'est chez toi. Je te promets. Je t'ai pas laissé. Cette idée, elle est trop dure. Tu sais, elle m'en a fait voir de toutes les couleurs, des que t'imagines même pas, qui sont pas encore répertoriées dans le prisme de la vue. Peut-être que toi, tu les vois. Elles sont peut-être en toi. Comme tu viens d'elle. Tu vois, le marron teinté de violet, avec des pointes de noir denses et des amas rouges pur sang. Cette couleur-là, c'est celle que j'ai eu à gérer le plus souvent. Avec elle. Je suis content que tu sois là, vraiment. Je sais pas si on t'a raconté, c'était une vraie passion, elle et moi. Tu viens de l'amour pur. Ça, tu peux t'en vanter. Je sais pas si ce genre de détail, ça peut t'aider. Ça se dit pas tout de suite, peut-être. Un de ces soirs, au bar, je te raconterai plus de choses, si tu veux. C'est ça qu'on fait avec son grand-fils, non ? On se pose devant le comptoir, on commande deux bières et deux shots de whisky et on se raconte des choses intimes, non ? C'est dans ces moments-là que ça se passe comme ça, hein ? 16 ans. Elle m'a volé 16 ans avec toi. On m'a dit que tes parents adoptifs, ils étaient bien. Je suis content. On va se parler, hein ? T'es un bavard, comme moi, j'espère. Tu me ressembles, ça se voit. La dame qui vient de nous servir le café, elle s'est même pas posé la question, j'en suis sûr. Elle a deviné que tu venais de moi, dans le corps, ça se voit. Mais dans ta tête, est-ce qu'on est pareil ? Faut que je te prévienne. Par rapport à la tête, je dois te raconter un truc. Avant tout, je crois pas que toi tu auras ça. Je crois vraiment que ça vient d'ici, que ça vient pas de moi. À la base, moi, je suis pas comme ça. Je suis pas un accro. Moi, ça a toujours été juste pour les délires. Je suis jamais allé trop loin. Je dois te dire, parce que quand tu es avec moi, il faut que tu en aies sur toi. C'est un spray nasal. Je suis désolé de commencer par ça, mais c'est important. C'est pour me sauver la vie, si je commence à trembler. Ça va te donner une bonne image de moi. Mais les gens t'ont dit, hein, que je suis quelqu'un de bien, à la base. C'est un spray. Faut que tu enlèves le plastique autour, puis tu décalotes le bout et tu le mets dans la narine. Et tu appuies, tu pchites. Et je reviendrai. C'est du narcan. Faut que tu retiennes si jamais tu dois en acheter et que je suis pas en état. C'est pour ça que je suis en retard. J'ai un peu trop dosé avant de venir. J'étais anxieux. Je sentais encore moins les effets. Alors j'ai pris double dose. Je te montre, c'est tout con. Tu vois, dans cette grosse boîte, c'est mon oxycontine. C'est une vraie merde. Au lieu de deux cachets, pour ma prise ce matin, j'en ai pris 4. La boîte, elle est si grosse, parce que je dois en prendre 20 par jour. J'ai les ordonnances faciles. J'achète pas au marché noir, moi. Avec mon métier, c'est obligatoire ici. C'est comme ça qu'on te soigne ici, quand tu as mal. Les douleurs sur le bateau, la solitude dans la cale. Moi, j'adore ça. Personne m'empêchera de faire ça. La mer, les crabes, les copains. Ma femme, elle a essayé. Mais si j'arrête... On a 3 enfants. Il y a toi maintenant. Je dois travailler. Et je sais faire que ça. C'est un opioïde. C'est 2 fois plus puissant que la morphine. Le docteur, il m'a pas prévenu, et les copains, ils prennent tous ça. Je sais que maintenant, l'an dernier, il y a 300 000 personnes qui en sont mortes, ici, aux USA. Tu verras, le pare-choc a pris un petit coup. Je conduisais, heureusement, c'était avant l'autoroute, j'étais tout seul. J'étais bien. J'avais mis « IAM » bien fort. J'aime bien faire ça, ici. Mettre du bon gros rap français, ouvrir les fenêtres, et avec le beau paysage que tu verras sur le retour, il y a comme une dichotomie, un contresens qui va trop bien avec la tête en vrac et les douleurs qui volent. Hé, je te vends pas de la drogue, hein ? C'est pas bien. Si tu touches à ma boîte, je jouerai au mauvais papa. Je sais faire ça aussi. Je sais très bien le faire, même. Mais t'as 16 ans. T'es pas un petit, tu sais ce que c'est. Enfin, bref, j'ai les mains qui ont quitté le volant, J'ai le corps qui a tremblé, je me rappelle comme si j'étais dans un Space Mountain, à l'air libre, et j'ai appuyé mon pied sur le frein. Heureusement, il y avait des passants pas loin qui sortaient d'une ferme. Ils m'ont tout de suite fait un pchit dans le nez. Ici, il y a beaucoup de monde qui a un spray sur soi. D'ailleurs, si tu croises quelqu'un qui fait une overdose, tu lui fais le pchit. C'est pas grave, j'en ai plein. Faut pas garder que pour moi. Faut sauver les vies. Puis, tu fais comme les passants. Tu restes avec lui le temps que le gars qui a fait sa crise, il reprenne ses esprits. Et après, tu le laisses repartir. C'est pas grave. C'est comme ça, ici. C'est pour ça que tu m'as attendu. Je suis désolé. Faut que tu me racontes, toi, ce que tu aimes, ce que tu détestes. Tu me parleras. T'as rencontré mon cousin Samy ? Oh là là, il m'a raconté qu'il avait remis le couvert avec Elisa. T'étais aux premières loges. Il a fait son intello, hein ? Il a laissé son cerveau tout décider pour ses sentiments. Il a fait appel à ses bons gros neurones pour s'empêcher d'être heureux. C'est un scientifique. Il recherche des solutions. C'est son métier. S'il y a des solutions, c'est qu'à la base, il y a des problèmes. Il ne voit que ça, les problèmes. Il sait que tu ne peux pas vivre une même chose à un même moment plusieurs fois. Parce que ce que tu es déjà fait, ce que tu as déjà fait, c'est de l'expérience. Et si tu le refais, ce sera jamais dans les mêmes conditions que la précédente fois. Tu vis avec ce que tu es dans le présent et ce qu'on est là, maintenant, tout de suite. Bah, c'est déjà quelqu'un d'autre. C'est la personne que tu étais il y a 2 minutes. Et il faut accepter qui on devient. Il le sait. Les particules, les sons, les odeurs, tout, tout peut pas être pris en compte. C'est pour ça qu'il est là, l'instinct, qui enregistre pour nous notre passé et nous guide pour être le plus proche de soi. Sans trop réfléchir, lui, il va penser à tout, tout le temps. Et si tu penses trop, ben c'est aussi catastrophique que si tu penses pas assez. Allez, viens, on va sur la route. Tu vas voir ma maison, tu vas voir l'Alaska. Je vais te faire monter dans le bateau, il est à quai. T'auras pas le mal de mer, on ne fera que compter les mailles des filets pour les recoudre. C'est ça aussi mon métier. Viens, je vais te montrer. Tu vas voir, ça va être bien.
1, 2, 3, 4, et le 5 remplit l'espace entre les coins. Il faut qu'elle touche avec la pulpe de ses doigts. Et Elisa recompte. 1, 2, 3, 4, à 5, son index appuie sur la surface en velours du coussin posé à sa gauche et scanne la surface douce de gauche à droite. Ce geste magique réussit à déposer ses pensées dans l'espace. Elle se retient de ne pas recompter. Elle venait de parler à Samy. Ils avaient fait une bataille de raisonnement et elle ne savait pas vraiment ce qu'il allait faire. Il avait été très concret. Pas de blabla. Il lui avait avoué qu'il avait pensé à se faire stériliser. Pour avoir un impact environnemental moins fort, qu'on était déjà assez sur cette terre. Elle pensait qu'au contraire, l'enfant qu'ils avaient conçu serait du bon côté de la force et serait un bon soldat pour que les choses puissent changer. Que cet enfant était l'espoir et pas juste un consommateur de plus. Et qu'il fallait lui laisser la chance de les rendre immortels. Il devait réfléchir. Elle devait attendre. Ils avaient reçu en même temps un selfie de Jean et de Karim, les cheveux au vent dans une voiture. Il y avait de belles montagnes au fond et le cuir des appuis-têtes semblait moelleux. Ça avait détendu l'atmosphère et ils avaient raccroché cordialement. 1, 2, 3, 4, et à 5, elle remplissait le vide des surfaces trop planes.
D'ailleurs, voilà des heures que je médite sur ma montagne et je n'arrive pas à faire le vide. Je focalise sur le diaphragme, je monte mon énergie, réveille la bête qui est dans mon âme et tapis.
Je viens de terminer ma préparation mentale. Ils vont goûter à l'incomparable style du Serval. Le souffle des quatre vents décuple ma puissance. De longs mois de travail ont exacerbé mes sens. Je crée un déséquilibre interne volontairement afin que le côté yang soit le dominant. Les pieds solidement ancrés dans la terre, je tire les dernières forces de la nature mère nourricière. Je mène les troupes au combat pour défaire les guerriers en contreplaqué de l'école du micro en bois. Notre bannière flotte au sommet du tsunami, annonçant fièrement la charge du micro d'argent. En plein cœur de la bataille, je sème la terreur quand je frappe des stockés de taille. Je sens l'esprit du félin m'envahir à ce stade. Seul le sang me procure du plaisir, mes griffes gravent les couleurs de l'empire plus grand que celui d'Alexandre dont je suis le défenseur. Je médite accroupi sous les branches d'un seul pleur. Je défends l'honneur de mon école fils. Les troisième œil de le terrain, la tactique à pratiquer pour balayer l'ennemi statique physiquement. Les déplacements furtifs de l'essence de mon esprit élaborent les bases de ma stratégie. Donc je me dresse dans des cliquetis bardés d'armes. J'ai une armée entière sous le charme, prête à mourir à la gloire de mon étendard. J'ai rassemblé la clique des valeureux guerriers barbares d'Ardard. J'ai envoyé paître les lettres pour chasser les traîtres. Selon l'enseignement de mes maîtres, sans relâche je crache des cendres et poursuivrai les massacres jusqu'à ce que le nom d'AKH soit légende. Car le soldat guerrier alpha est adroit et lance l'assaut là sur l'école du micro en bois. La bataille est débutée, tiens ce coup bien d'un expert à la guerre, vaillant praticien des arts martiaux, délégué pour mettre terme à ces horreurs. Tel est mon labeur, tu sais de qui je défends l'honneur.
Bien voilà, c'était donc le sixième épisode de la saga « Elles y croient qu'elles peuvent voler ». Le sixième épisode intitulé « Des perturbations sont à prévoir ». Saga donc de Eva Natalia Grenier. Alors Eva, donc on l'a entendu dans cet épisode, il est beaucoup question des addictions. Tu as travaillé autour de ce thème et notamment le rapport à la boulimie et le rapport aux opioïdes. Alors dans cette écriture du réel dont tu nous as parlé, qui est en prise avec l'actualité, avec tes préoccupations, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où te vient ce thème? Qu'est-ce que tu as voulu explorer par cette thématique-là?
Eh bien, du coup, oui, moi, j'ai profité qu'il y ait vraiment toute une étendue de personnages pour vraiment pouvoir avoir le même thème qu'est l'addiction. De le voir de manière différente. La première manière, c'était de le voir sur un peu des addictions qui peuvent venir de choses qui proviennent de l'enfance, de choses qui sont peut-être transmises de génération en génération ou qui proviennent pas de la personne en elle-même, mais de ce qu'on lui a un peu imposé. Et à travers ça, du coup, j'ai voulu parler du rapport à la nourriture, à la boulimie et à comment derrière, quelle incidence ça peut avoir. Comme j'avais envie d'introduire, donc ça permettait aussi d'ouvrir d'autres réflexions par rapport du coup au corps et à ce rapport au corps et à ce rapport au corps médical qui j'ai pu lire beaucoup de choses sur des femmes qui étaient assez rondes et qui étaient victimes d'une vraie grossophobie dans le milieu médical, et j'avais envie d'en parler. Et du coup, de passer de parler de cette addiction qui devient quelque chose, un miroir un peu sociétal de ce qui peut se passer par rapport à ça. Et à côté, du coup, j'ai pris plus une addiction qui est un peu due à une faiblesse de société où en fait aux États-Unis la première cause de mortalité c'est les médicaments, en fait c'est des opioïdes, c'est des gens à qui on a prescrit des médicaments à dose très forte deux fois plus puissant que de la morphine. Ça peut être vraiment très fort, ça peut être aussi les gens qui n'ont plus droit à ces médicaments deviennent accros très vite, parce qu'en fait à la base c'est des médicaments qui sont pour les personnes en phase terminale de cancer, donc c'est pas fait pour être suivi, et les laboratoires médicaux aux États-Unis ont tout fait pour que ces médicaments créent une réelle addiction. Et aujourd'hui il y a des gens qui vont aller prendre de l'héroïne, qui vont aller vers des choses qui sont ça suite à juste une entre guillemets mauvaise prescription. Et il y a beaucoup d'États aujourd'hui aux États-Unis où il y a la police ou les pompiers vont passer plus de temps à faire des coups de pchit nasaux dans les gens qui font des overdoses que à pouvoir faire d'autres choses, quoi. Donc c'est un vrai sujet aussi. Et comme il y a un des personnages qui vivait en Alaska et qui je me suis dit que c'était un bon mélange d'aller là-dedans.
Et à travers cette thématique des addictions, il y a évidemment en toile de fond le rapport aux différentes générations. Enfin, est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est-à-dire comment finalement ces addictions, elles viennent de nos parents ou elles se transmettent aussi aux enfants? On voit bien, là, il y a un enfant qui va arriver dans la fiction. Il y a le rapport aussi au fils qui revient, Jean, avec son père Karim. Comment ces générations le portent, tout ça?
C'est vraiment le questionnement de la transmission. Là, on a une transmission avec un être qui n'existe pas encore et une transmission avec quelqu'un qui n'a pas eu de rapport en fait réel avec la personne. Et comment rattraper le temps et comment aller là-dedans? Qu'est-ce qui vient de la génétique? Qu'est-ce qui ne vient pas de la génétique? Toutes ces choses-là.
Super. Merci beaucoup en tout cas pour cette saga. Donc il y aura 7 épisodes, c'est bien ça?
Oui, là c'était l'avant-dernier épisode et le dernier épisode ce sera pas la semaine prochaine, ce sera en juin. Je crois que c'est le 14 juin, quelque chose comme
super.
Ça.
Super. Bon, et c'est en cours d'écriture, j'imagine.
Tout à fait.
Écriture en direct.
Tout à fait. Mais même si vous voulez des petits secrets, ce n'est même pas commencé.
D'accord. On ne peut pas faire de teaser aujourd'hui pour cet épisode 7. En tout cas, on l'attend avec impatience. Merci beaucoup, Eva. Il est l'heure, je crois, de retrouver notre agenda culturel. Voilà, pour connaître un petit peu les événements à venir qu'on a envie de promouvoir. Et Delphine, je crois que tu as quelque chose à nous annoncer.
Oui, j'ai même deux annonces. Alors, la première, c'est ce soir. C'est à Graines de Star Comedy Club. Alors, je ne connais pas le lieu, par contre. C'est rue Francis de Présancé à Villeurbanne. C'est la troisième salve. Alors, le concept de la salve, donc il y a eu déjà deux éditions, c'est un cabaret burlesque. Voilà, je suis allée à la dernière édition, là, à la seconde salve, et c'est vraiment un show paillettes, effeuillement burlesque. Donc, très impressionnant, très étonnant à voir. Donc, je vous conseille d'y aller.
Un spectacle complet. Ouais.
C'est ça. Ouais, ouais. Et de réserver. Donc, les réservations se font sur le site WeEvent.
Ok.
Donc, voilà.
Très bien.
Et la deuxième chose dont j'avais envie de vous parler, c'est un spectacle qui va se jouer du 16 au 21 avril au Carré 30. C'est Alice de l'autre côté du miroir par la compagnie PPC Marthe. Donc voilà, je n'ai pas vu ce spectacle, mais ça a l'air bien onirique, revisite de l'histoire d'Alice.
Donc voilà, réservation conseillée aussi.
Au carré 30.
Petite
donc.
Jauge.
Entendu.
Voilà.
Super. Bah merci pour ces événements. On va pouvoir profiter du printemps qui arrive et sortir au théâtre. Voilà, voir toutes ces formes de spectacles. Je crois qu'il n'y a pas d'autres annonces pour l'agenda de la semaine. Bien. Alors, merci Charlotte, merci Eva, merci Delphine. On se retrouve.
Merci Gauthier.
Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour votre émission de théâtre radiophonique, le théâtre de la Gamelle. Et on vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.
Bonne semaine, à bientôt.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'armes, l'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Rien d'inarrivé, noble.
Journal vivant, politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue, il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.